Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus enseignant avec le sermon dans la plaine. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Luc et il est l'équivalent de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu. Et il comporte en tout comme enseignement les fameuses béatitudes que vous connaissez sans doute. Nous allons donc lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 26. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule chercha à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes.
Jésus étonne par ses actes de guérison comme par ses paroles d'autorité. Le chapitre 6 de l'Évangile de Luc commence avec deux querelles concernant le sabbat. Jésus transgresse la loi du sabbat. Il étonne et en même temps il scandalise. Les disciples de Jésus ont arraché et mangé des épis un jour de sabbat. Ils ont fait, disent les pharisiens, à Jésus ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus leur répond en disant « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Même querelle sur le sabbat à propos d'une guérison. Jésus, comme un fait exprès, guérit un homme à la main sèche un jour de sabbat, en disant aux scribes et aux pharisiens « Est-il permis le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre.
Jésus a été envoyé sur terre par Dieu son Père pour faire du bien, pour faire œuvre de miséricorde, pour faire vivre et non faire mourir, pour sauver et non perdre. Il a donc guéri cet homme, à la fureur des scribes et des pharisiens, un jour de sabbat, dans une synagogue. Jésus a été pour cet homme ce qu'il demandera à ses disciples d'être à leur tour, c'est-à-dire miséricordieux. Dans le sermon dans la plaine, ou sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, Jésus, après avoir dit à ses disciples « Aimez vos ennemis », ajoute, selon Luc, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux », là où Matthieu disait « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Être parfait pour Luc, c'est donc être miséricordieux. Par son attitude de miséricorde et d'amour, le chrétien révèle au monde la perfection de Dieu, la nature intime de Dieu. Dieu est amour. Luc nous donne donc ici, au chapitre 6 de son évangile, sa version du sermon sur la montagne qui occupe trois chapitres entiers chez Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Dans l'évangile de Luc, c'est beaucoup plus court. C'est seulement la deuxième moitié du chapitre 6. Et l'accent est souvent bien différent de Matthieu.
Chaque évangéliste, vous le savez, a regroupé et présenté les paroles de Jésus avec une accentuation propre, sans doute selon le contexte du moment où il écrit et selon les communautés à qui il s'adresse, selon aussi les orientations théologiques qui sont les siennes. Les quatre évangélistes, selon la tradition orale ou les fragments d'écrits qui leur sont parvenus, et avec leur accentuation théologique propre, ont donc écrit leur évangile. Ces quatre évangiles qui font la richesse de notre Nouveau Testament. Ces quatre évangiles complémentaires qui disent une même bonne nouvelle dans une riche diversité.
Peut-être certains d'entre vous préféreront-ils la version de Luc, du sermon sur la montagne, mais beaucoup d'autres préfèrent la version longue, qui est plus spiritualisée de Matthieu. Nous allons essayer de comprendre et de recevoir ce matin cette version, ce message de Luc. Nous avons déjà dit que l'évangile de Luc, bien souvent, nous rappelle la théologie de l'apôtre Paul, avec une insistance sur le Saint-Esprit et sur la théologie du salut par grâce. Mais il faut dire aussi, par ailleurs, que Luc, qui a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres, avec le récit de la Pentecôte au chapitre 2, et au chapitre 4, la description de la première communauté chrétienne qui pratiquait la mise en commun des biens. Luc insiste toujours aussi dans son évangile sur l'amour du pauvre. Luc est particulièrement tendre pour les pauvres et particulièrement sévère pour les riches.
Je rappelle les versets du chapitre 4 des Actes qui décrivaient une sorte de communisme chrétien. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon ce qu'il avait besoin. C'est pourquoi ce même Luc, dans les Béatitudes, ouvrant le sermon de Jésus, parle de la pauvreté tout court, et non pas en esprit comme Matthieu, et de la faim tout court, et non pas de la faim de justice comme chez Matthieu.
Heureux les pauvres, dit Luc, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés, etc. Donc pour Luc, heureux les pauvres, alors que pour Matthieu, c'était heureux les pauvres en esprit. Alors, qui a raison? Qui est plus proche des paroles de Jésus? Ou quelle version préférez-vous entendre? À mon avis, nous ne devrions pas choisir, mais essayer de comprendre et de recevoir l'une et l'autre béatitude. Nous comprenons sans doute mieux la version spiritualisée de Matthieu, qui est moins scandaleuse que celle de Luc, qui est moins abrupte que celle de Luc. Pauvres en esprit, cela veut dire être demandeur d'amour, humble, ouvert à l'esprit, priant et en attente.
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beaussée-Perche. Nous vous parlons aujourd'hui des béatitudes. Les morceaux musicaux sont des extraits de Paulus de Mendelssohn. Donc dans les béatitudes, Luc dit « pauvres, heureux les pauvres », sans doute pour corriger en quelque sorte l'injustice de nos situations humaines. Dieu n'a pas abandonné les pauvres comme les hommes les abandonnent. Dieu porte un regard différent du regard humain ordinaire sur chacune de nos situations humaines. Son regard sur nous fait la différence. Son appréciation sur nos vies fait la différence. Le pauvre, aux yeux de Dieu, ne vaut pas moins que le riche. Dieu est père de tendresse, c'est-à-dire qu'il est un père qui a un cœur maternel sur les pauvres, sur ceux qui ont faim, sur ceux qui pleurent, comme une mère a un regard d'amour particulier pour celui de ses enfants qui est malheureux, malchanceux. Ainsi, heureux les pauvres.
Cela ne veut pas dire qu'ils vivent vraiment un bonheur. Il n'est pas supportable d'être pauvre, de ne pas manger à sa faim, de pleurer. Nous devons, nous chrétiens, lutter de toutes nos forces contre ces malheurs. Nous devons partager avec les pauvres, comme dit le même Luc. Simplement, Jésus dit que Dieu est proche de cela. Ils ont besoin de lui, de son amour, alors que les riches pourraient se contenter de leur richesse. Et Luc ajoute même ces terribles antithèses des béatitudes, les malédictions, qu'on ne trouve pas du tout dans l'évangile de Matthieu. Luc ajoute donc « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation ». Malheur à vous, les rassasiés de maintenant, mot à mot les remplis, c'est-à-dire ceux qui sont gavés, repus, car vous aurez faim, etc. Pour le reste du sermon, Luc reprend les paroles importantes du sermon sur la montagne, comme chez Matthieu. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc.
Sauf que Luc insiste à nouveau sur le thème du pauvre, sur le thème du don, puisque pour Luc, aimer ses ennemis, c'est aussi concrétiser l'amour par le sacrifice d'argent. Aimez vos ennemis, dit Luc, faites du bien, puis il ajoute, et prêtez sans rien espérer. Donnez, prêtez votre argent. » Il insiste encore plus loin, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc appel à donner, appel à la générosité. Il semblerait que pour Luc, le seul bon usage de l'argent, c'est de le donner, comme au chapitre 4 des Actes précisément, où les premiers chrétiens, nous l'avons vu, pratiquaient la communauté des biens. C'est ce même Luc encore, le seul des quatre évangiles, qui racontera au chapitre 19 l'histoire du riche Zachée, dont la conversion se traduit immédiatement par une décision de générosité financière. La seule chose que dit Zachée à Jésus, du moins la seule que rapporte Luc, c'est « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Après ça, il n'a pas dû lui rester grand-chose.
Et c'est alors que Jésus dit, selon Luc, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Voilà, Jésus, selon Luc, est l'ami des pauvres et l'ennemi de la richesse. Et précisément, il faut rappeler que si Luc parle d'un sermon dans la plaine, c'est sans doute pour rapprocher le discours de Jésus de la foule, de tous les pauvres. En effet, Jésus, dit Luc, monta sur la montagne et là, il choisit 12 disciples.
Mais alors que pour son sermon, Matthieu gardait Jésus sur la montagne, c'est-à-dire près de ses disciples, et que le sermon s'adressait donc principalement à ses disciples, Luc, lui, insiste sur l'évangile universel de Jésus. N'oublions pas, là encore, que Luc est l'auteur du livre des Actes, c'est-à-dire de la mission, et en particulier de la mission de l'apôtre Paul, parmi les païens, parmi les foules, dans le monde entier. Donc Jésus, chez Luc, descend de la montagne et c'est un sermon sur le plateau ou dans la plaine. Il descendit avec ses disciples, dit Luc, et il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire des régions païennes voisines d'Israël. Ils étaient venus, dit Luc, pour être guéris de leur maladie, et il les guérissait tous. Tout de suite après, Jésus prononce son sermon. Toujours la même chose, ministère de guérison, ministère d'enseignement, ministère de pardon.
La guérison, on l'a déjà vu avec l'homme à la main sèche, guéri un jour de sabbat. Et puis au chapitre 7, c'est la guérison du serviteur d'un centenier païen de Capharnaüm. Et Luc, au passage, souligne une fois encore la foi d'un païen. « Je vous le dis, dit Jésus, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Et puis c'est la résurrection, du fils de la veuve de Naïn, avec l'étonnement des foules. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Tout de suite après, pourtant, au milieu du chapitre 7, Luc rapporte le doute et l'angoisse de Jean-Baptiste, emprisonné, qui envoie ses disciples à Jésus et pose sa question, son incertitude, son doute et son insatisfaction. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?»
Et Jean-Baptiste, ici, c'est nous aussi. Avec nos questions, nos problèmes, nos doutes, nos découragements. Si Dieu est vraiment là, pourquoi tous nos problèmes ne sont-ils pas résolus? Pourquoi les souffrances de Jean-Baptiste dans sa prison? Pourquoi nos malheurs aux uns et aux autres, nos maladies, nos échecs, nos malchances, nos peurs? Nous aussi, nous disons à Jésus, « Es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment notre compagnon, notre sauveur ?» Vous connaissez la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, elle est aussi pour nous. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous retrouvons une fois de plus les pauvres comme une préoccupation première de Jésus dans l'évangile de Luc. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On leur annonce l'amour de Dieu pour eux. On leur donne pain et guérison, amour et bénédiction. Heureux les pauvres, car ils sont visités, secourus, réconfortés, aimés. C'est vers eux, vers nous tous, que Jésus est envoyé pour guérir, pour consoler et pour faire vivre.
Pour terminer, j'évoquerai encore l'histoire de la pécheresse pardonnée à la fin du chapitre 7. Là aussi, une histoire scandaleuse. Cette femme, qui épanche son amour aux pieds de Jésus, dans une maison convenable, la maison d'un pharisien nommé Simon, une femme pécheresse qui ose accaparer Jésus et pleurer. Pleurer sans doute de tristesse sur sa vie, mais aussi pleurer d'amour et de joie de rencontrer ce Jésus qui croit pour elle, qui croit malgré tout et qui ne désespère pas d'elle, et qui lui pardonne. Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et c'est la troisième béatitude de Luc. « Heureux ceux qui pleurent maintenant, car vous rirez, vous serez dans la joie. » Et cette parole, elle est pour nous aussi ce matin. « Tes péchés sont pardonnés. » Puis Jésus ajoute, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Devant l'étonnement scandalisé de Simon le pharisien, Jésus lui dit « Ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. »
Dans la suite de l'évangile, Jésus continue à guérir, à enseigner, à pardonner, à faire vivre. Mais il va commencer à évoquer sa mort au moment où il se met en marche pour aller de la Galilée vers Jérusalem. Tout son ministère sera un cheminement, une marche, une façon de semer l'évangile sur la route. Même si au bout du chemin, à Jérusalem, c'est la mort, la croix, mais aussi, bien sûr et surtout, c'est la résurrection. Sur cette route de Jésus, il y a tous ces malades, tous ces pauvres, toutes ces souffrances, mais aussi et surtout, toute cette espérance.
Sur cette route de Jésus, il y a nous aussi. Cette histoire de l'Évangile n'est pas terminée. Elle est nôtre. Jésus nous rencontre et nous le rencontrons en cheminant avec lui à travers ces chapitres de l'Évangile de Luc. Ceux qui ont besoin de guérir le rencontreront. Ceux qui ont besoin d'être pardonnés le rencontreront. Ceux qui ont besoin d'être réconfortés, mis debout, ressuscités, le rencontreront. Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous bénit. Il bénit chacun de nous. Jésus nous dit à la fois « Donnez et l'on vous donnera ». Et c'est notre vocation et c'est notre mission. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est notre grâce et notre salut. Amen. Cette émission se termine. Je vous invite à nous rejoindre au culte au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres tous les dimanches matins à 10h30. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.